le vrai, le vrai. Ce que vous désirez, ce que vous recherchez, c'est le vrai, le vrai. C'est le vrai, le vrai.
C'est faux.
On l'exige à présent.
C'était bien quand même, hein? C'est oui. Le vrai de vrai avec Côte, il y a de la joie. Vous avez reconnu sans doute la magnifique voix de René Claude. Je ne savais pas qu'elle avait enregistré cette publicité.
Ah oui, c'était connu, là. C'était la...
Avec la voix de René Claude?
Oui, je me rappelle. Oui? Ouais, c'était la voix de l'époque là, pour le Côte. Là.
Pour la radio, ouais. Entre autres. Mm-hmm. Alors Serge, c'est pas pour rien qu'on a poussé cette petite ritournelle. C'est parce que vous allez nous parler de l'histoire de la bouteille de Côte qui a été dessinée par un Mexicain.
Oui, la bouteille en plastique.
Ouais.
De M. José Tirso Olivares. Et c'est une chronique d'Yves Boisvert, journaliste de la presse, c'était vendredi dernier. Et Yves Boisvert est aux États-Unis pour la campagne américaine et il en profite en même temps pour regarder un peu la société, faire des papiers sur la société américaine.
Nous raconter des tranches de vie.
Oui. Mm-hmm. Alors,
José quoi?
Non, excusez-moi, j'ai perdu une feuille. Voyons.
Ah, j'ai ici la tablette. Est-ce que vous avez besoin de
ma
tablette?
Qu'est-ce qui est ma feuille, donc?
L'avez-vous imprimé recto verso?
Que c'est? Ah non, c'est ça.
C'est
OK, d'accord, ça va.
Bon. Je peux chanter alors, en attendant.
C'est ça. Alors,
on est en direct en passant. Ça.
Oui. Yves Boisvert est à Chicago. Et José arrive au café avec un tube plein de ses esquisses et de ses plans. Il étale sur la table ses dessins ultra précis, 100 fois retouchés, corrigés selon les spécifications des ingénieurs. Yves Boisvert a rencontré José dans son Uber dans le West Loop de Chicago et lui a demandé ce qu'il faisait quand il ne conduisait pas. Et le monsieur a répondu « Designer industriel, mais j'ai pris ma retraite », m'a dit l'homme de 64 ans à l'accent hispanique. « Ah, évidemment, vous désignez quoi ?»« Oh, bien des choses. » Ben, c'est moi qui ai dessiné la bouteille en plastique de Coca-Cola. Bon.
Alors, ça comme ça.
T'es dans Uber, tu te fais répondre ça, ça semble un peu gros. Alors, il lui a donné rendez-vous lundi en fin de matinée et il n'avait pas menti. Il a déroulé devant Yves Boisvert une série d'originaux de ses travaux. Personne ne connaît José Tirso Olivares, mais tout le monde a touché son œuvre. La bouteille en plastique de Coca-Cola. Tel est le destin des designers industriels.
Ah oui, je la vois, là. Oui.
À la fin des années 80, la plus célèbre société de boissons gazeuses au monde a voulu refaire le design de la version plastique de sa bouteille. Et il fallait lui donner la même personnalité que l'original en verre, ou plutôt celle qui est mondialement connue depuis les années 1920. Il y a eu un appel d'offres, et c'est le modèle de José Tirso qui a été retenu. À l'époque, il sortait à peine de l'école de design industriel de l'Université de l'Illinois. Il avait été vite embauché chez Kornick Lindsay, une petite firme de Chicago à l'époque qui avait remarqué le talent de ce jeune diplômé mexicain. J'avais déjà travaillé sur plusieurs emballages en PET, PET, comme la bouteille de la moutarde French, nous dit-il. Ce que vous et moi appelons le plastique est en effet du PET ou
Prenez votre temps.
J'ai dit la misère depuis hier pour ce mot-là. Du polyphtalate d'éthylène pour les initiés. Je ne sais pas, je ne l'ai pas dans ce
Il manque
faut.
Un ré.
Ah, bon,
polyphtalate.
Comment tu parles?
C'est compliqué. Hein? Ouais. P-O-L-Y-T-E accent aigu, R-E accent aigu, P-H-T-A-L-A-T-E.
Polythéréphtalate, pas trop. Bon, tout le monde a compris.
Alors, disons PET.
Oui. On ne peut pas se contenter de copier le design d'une bouteille en verre pour en faire un objet en PET. Les contraintes techniques sont nombreuses. Il faut jouer avec les épaisseurs, la résistance, tenir compte des risques d'explosion, vu que le contenu est sous pression. Si bien que dans leur première génération, les bouteilles de plastique étaient à peu près toutes les mêmes, tous produits confondus. Coca-Cola voulait donner à sa version plastique la sensualité de celle de verre. Un projet top secret, bien entendu, surveillé de près par le siège social qui voulait arriver avant Pepsi. Il y a toujours une rivalité entre Coke et Pepsi. Alors, José dit qu'il passait au moins 3 jours par semaine à Atlanta. Et on a fait beaucoup de recherches sur l'histoire de la bouteille et les possibilités techniques. C'était un gros truc. À l'école, il passait son temps à dessiner des avions dans ses cahiers. Je ne sais pas pourquoi, mais, dit-il, mon frère et moi avions une fixation sur les avions. Et mon frère est devenu pilote, d'ailleurs. Après un bref séjour à l'Institut de technologie de Monterey, une des meilleures écoles d'architecture d'Amérique latine, il a décidé de partir aux États-Unis. Son père avait un ami à Chicago et il s'est retrouvé là. Son talent lui a valu une petite bourse, mais il a dû faire plein de jobs en même temps, illégalement, car les étudiants étrangers n'ont pas le droit de travailler. 5 ans après avoir obtenu son diplôme, le voici en train de travailler sur une icône de la culture américaine. Il n'y a pas d'objet plus connu dans le monde. Tout le monde reconnaît une bouteille de Coke instantanément. C'est un morceau d'Americana. Et c'est moi, un Mexicain, qui n'avait même pas ma citoyenneté, qui allait faire ça.
Imaginez.
C'était une chose incroyable pour moi. Quelle chance, je savais ce que ça représentait. Ils ne vendent pas seulement une boisson, ils vendent une expérience. Les mains de Josie se promenèrent sur les grandes feuilles de papier comme s'ils les flattaient. Tout était dessiné à la main à l'époque, dit-il avec un rien de nostalgie dans la voix. Il me montre les légères altérations imposées par les limites de la technologie, la nécessité de faire coller une étiquette, la répartition de la pression, la distribution des épaisseurs de PET, etc. La bouteille a aidé à rendre Cornick Lindsay célèbre. Josie a ensuite dessiné des bouteilles de Gatorade, Snapple, des pots de mayonnaise, de succès donné de sucre, de nettoyant domestique, une brosse à dents Oral-B et plusieurs autres.
Il en a fait des choses, ce
Josie.
Il a été
très productif, oui. J'ai été très bien traité par Cornick Lindsay, je dois dire, mais aussi sans me vanter, j'étais le meilleur, dit-il en riant. Sans jamais qu'on le lui dise toutefois, il a senti qu'au siège social, tout le monde n'était pas si ravi de voir un Mexicain responsable d'un dossier aussi délicat.
Ah, il y avait du racisme.
Ouais. Je croyais obtenir une promotion ou avoir un emploi chez Coca-Cola, mais c'est jamais arrivé. Est-ce parce que je suis Mexicain? Je ne pourrai jamais le prouver. Ironiquement, c'est un Suédois, Alexander Samuelsson, qui a dessiné la première bouteille de Coke au courbe prononcée en 1915. On lui a donné le nom d'une jupe très serrée en vogue à l'époque. Il y avait une jupe, quoi, maintenant?
Les jupes fourreaux, là?
Oui. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. On l'a dégonflé dans les années 1920. On lui a donné le nom de bouteille May West, car elle évoquait prétendument les courbes de la célèbre actrice.
Ah, bon?
Oui, on a théorisé sur la symbolique sexuelle de la bouteille. Elle s'est retrouvée dans les œuvres de Dali et, bien sûr, Andy Warhol. Le designer suédois voulait apparemment simplement évoquer la forme d'une fève de cacao,
ah, oui, peut-être. Il y en a qui ont de l'imagination.
Ouais. José s'est rendu compte que sa firme s'était appropriée le brevet de plusieurs des objets qu'il avait dessinés. « On m'a refusé un emploi parce que, quand j'ai fait valoir mon travail, le brevet était au nom des associés de la firme. Je ne pouvais pas prouver que c'était moi. J'ai été moins naïf après. »
Ah oui, c'est frustrant ça, ouais. Se faire piquer ses idées.
Ouais.
Ou en tout cas qu'on n'accorde pas le crédit à la bonne personne.
Oui. Ça ne lui donne pas un cent, car le client se fait céder les droits. S'il avait seulement une fraction de cent par bouteille vendue, il serait actionnaire d'Uber et pas chauffeur.
Oui, c'est ce que dit Yves Boisvert.
Ouais. J'ai très bien vécu et je suis fier de ce que j'ai fait, dit-il. Il n'est pas dans la misère non plus. Il met son talent à rénover des maisons qu'il achète au Mexique. Le designer retrouve son ancien rêve d'architecture. Une revue universitaire a interviewé José il y a 15 ans pour un article consacré au designer mexicain aux États-Unis comme... Javier Verdura, responsable du design chez Tesla. Au Mexique, avait-il dit, il y a plein de choses que tu n'as pas ou que tu ne peux pas avoir, alors ça te force à trouver d'autres chemins pour parvenir à ton but, car les choses ne sont pas structurées comme aux États-Unis. Comment la culture mexicaine s'exprime-t-elle dans une bouteille? dans une voiture. Un objet industriel n'est pas une pure expression artistique. Le concepteur s'efface, il dirige son talent vers l'utilisateur. Mais sûrement quelque chose percole insensiblement de ses mains glissant sur le papier jusque dans celles qui prennent la bouteille comme un trait d'union tactile, invisible et anonyme.
Wow! Quelle belle rencontre! Une simple question dans le taxi, ben c'est ça être journaliste, c'est ça être curieux, ça nous amène vraiment à découvrir des êtres humains et à offrir une super belle chronique que vous nous avez lue. Bon choix! Serge, le Mexicain qui a dessiné la bouteille de Coke en plastique, c'est il avait pas mis en plastique dans le titre.
Non.
C'est Yves Boisvert dans La Presse Plus du 25 août. Chronique avec Serge Bradet qui continue de nous parler après de nous avoir présenté le designer de la bouteille de Coke en plastique. Vous nous parlez de la pomme, la petite histoire de la pomme. C'est sympathique comme titre.
Oui, moi je dirais peut-être la grande histoire de la pomme.
Oui.
Parce que c'est une vieille histoire.
Okay.
Grande et vieille histoire de la pomme. Les sources, c'était dans la presse de vendredi dernier, dans la section Extra Notre Québec, et les sources viennent de différents ministères du Québec, l'agriculture, environnement, etc. Alors, il n'y a pas d'auteur en tant que tel, mais c'est les sources ont été prises là. Alors, avant que vous puissiez y croquer à belles dents, la pomme a parcouru un long chemin, et pas seulement à partir du verger. Il s'agit d'une histoire épique traversant les millénaires et les océans, des banquets de l'Égypte ancienne jusqu'à la vallée du Saint-Laurent. En voici un résumé ainsi qu'un portrait de l'industrie d'aujourd'hui. Quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Quelques milliers d'années.
Ça
fait longtemps. Ses origines exactes font à ce jour l'objet d'un débat. Mais la pomme proviendrait soit de la chaîne de montagnes du Tian Shan en Asie centrale, soit de la région du Grand Caucase qui englobe aujourd'hui la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Dès 2000 avant Jésus-Christ, ce fruit est vendu jusqu'à l'est de la Méditerranée, vraisemblablement importé par des voyageurs et des marchands traversant le Moyen-Orient. Du 13e au 8e siècle, toujours avant Jésus-Christ, un délice de l'Antiquité. La pomme est cultivée aux abords du Nil, en Égypte ancienne, là où elle est considérée comme un aliment de grand luxe. Le fruit poursuit son voyage vers l'ouest jusqu'en Grèce. Homère en fait d'ailleurs mention dans son œuvre « L'Odyssée » et jusqu'en Italie. De 31 avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ, Rome étend ses racines. L'armée romaine part à la conquête de l'Europe et sur son passage plante des pommiers. Son savoir-faire agricole, y compris la fermentation du cidre, gagne les monastères de Gaule, dont les moines s'appliquent à perfectionner différentes techniques. Au XVIIe siècle, la pomme débarque au pays, en Amérique du Nord. Les premiers équipages européens traversent l'Atlantique en transportant avec eux de précieux pépins de pommes dans le but de cultiver ce fruit familier au Nouveau Monde. C'est mission accomplie en 1610 avec l'apparition du premier pommier canadien documenté à Port-Royal en Nouvelle-Écosse.
1610, c'est début du 17e siècle.
La ville de Québec suit de peu en 1617 lorsque l'apothicaire de Louis Hébert plante de premiers pommiers importés de Normandie. Et Montréal devra quant à lui patienter jusqu'en 1670 pour que les Jésuites aménagent sur le Mont-Royal, un verger sur le Mont-Royal. Pendant ce temps, on peut cultiver, un seul cultivar est commercialisé à grande échelle. La fameuse est aussi appelée pomme de neige. Les producteurs finissent toutefois par obtenir l'appui du gouvernement afin de développer des variétés mieux adaptées au climat canadien. Ce processus complexe de pollinisation, de croisement et de sélection manuelle conduit à la découverte de nouveaux délices comme la Spartan, l'Ambrosia et la populaire Macintosh.
Celle que Mathieu est en train de manger.
C'est Mathieu qui a craqué sa pomme. Ah ben, mon
oui.
Dieu. Année 1970, le début de l'autocueillette. Une belle
tradition.
Habitude. Oui, belle tradition.
Oui.
Une pénurie de main-d'œuvre saisonnière et un contexte économique difficile encouragent les pommiculteurs de la grande région métropolitaine à revoir leur modèle d'affaires. Chaque dimanche, les vergers invitent les familles à venir cueillir elles-mêmes leurs pommes à moindre coût et à passer du bon temps ensemble. La pomme du Québec d'aujourd'hui en chiffres. Troisième province productrice du pays. Seuls l'Ontario et la Colombie-Britannique cultivent davantage de pommes que le Québec. 16 kg, c'est la quantité de pommes fraîches et transformées que consomme en moyenne chaque personne par année au pays. Environ 400 entreprises pommicultrices. Celles-ci sont principalement concentrées dans quatre grandes régions pommicoles. Montérégie Est et Centre du Québec, 28%. Montréal, Laval, Laurentides, Outaouais, 21%. Montérégie Ouest, 16%. Et Estrie, 11%. Et, petite question, j'aime ça. Combien de variétés de pommes pensez-vous qu'il y a?
Dans le monde entier?
Oui, bon, les producteurs de pommes du Québec ont fait un recensement.
OK,
donc
alors
ça doit
au
Québec.
Être au Québec. Donnez-nous des choix de réponse.
4, 10, 18, 25.
J'aurais dit 20, oui.
Moi, je vais dire 18.
C'est 18, Hélène. Vous avez gagné. Les producteurs de pommes du Québec recensent 18 variétés disponibles en épicerie, chacune possédant...
C'est beaucoup quand même, hein?
Oui, c'est énorme. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant, là, moi. Là. Je les ai probablement pas toutes vues.
Et toutes goûtées, évidemment.
Ben non, c'est ça, oui. Chacune possédant sa spécialité. Par exemple, la chair blanche de la Cortland est particulièrement propice à la cuisson des tartes. Tandis que l'exceptionnellement croquante Honeycrisp se prête bien aux salades. Je sais pas, Mathieu, si c'est une Honeycrisp qui a croqué tout à l'heure.
Non, mais c'est ma pomme préférée.
Ah oui? Alors, c'est laquelle que vous êtes en train de manger? Là, il a la bouche pleine, c'est difficile pour lui de répondre. Ça viendra.
La Macintosh, 33%.
Une classique, hein?
Oui. Le tiers de la production québécoise est de variété Macintosh, ce qui en fait la plus populaire de la province. La Spartan, la Cortland et l'Empire viennent ensuite. Mais petite note personnelle...
Elle est encore plus populaire depuis qu'on a connu Summer Macintosh.
Mais petite note, moi, la Macintosh...
Ça vous dit quelque chose, vous n'avez pas allumé hein, quand je vous ai parlé de Summer Macintosh?
Non.
La championne olympique.
Ah, OK.
Oui, nageuse fantastique qui a tout raflé au plus récent jeu à Paris.
Ah, oui. Mais la Macintosh, c'est ça, moi, je trouve que le goût de la Macintosh a changé depuis quelques années.
Oui.
Oui, avant, je ne sais pas, on dirait qu'elle est moins dure, moins ferme. Je trouve ça...
Mais c'est bon quand c'est vraiment frais, pour toutes les pommes, finalement.
Mm-hmm. Oui. En tout cas.
OK, je pensais que vous continuiez à nous donner d'autres
Non, c'est tout les pop-pommes.
Mais on aime bien aussi tout ce qui concerne les recettes autour de la pomme.
Ah,
Vous avez parlé de la tarte aux pommes, les muffins aux pommes, la compote de pommes.
Gâteau renversé aux pommes.
Ah oui, la tarte tatin, c'est fait avec des pommes.
Des pommes, oui.
Mm-hmm. Oui, c'est bien bon. Un autre croquet, Mathieu, pour l'effet? Vous êtes bon! On dirait que c'est un effet enregistré. Et non, il est devant nous, il croque sa pomme. Alors, on y va avec un autre sujet, mais d'abord et avant tout.